Lundi 13 mai 2019, la librairie Ombre Blanche accueillait la philosophe Fabienne Brugère, autrice de l'ouvrage « On ne naît pas femme, on le devient », paru aux éditions Stock, lors d'une rencontre animée par Sylvie Chaperon. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et tous. Excusez-nous pour le retard dû à l'arrêt et l'arrivée tardive de l'appareil, comme on dit. Alors, je vous présente avec grand plaisir Fabienne Brugère, mais sans doute beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, puisque elle a été à Toulouse, hein.
Un certain nombre d'années, jusqu'en 2001. En fait.
Oui, j'ai noté 1997-2001. Voilà. Donc, Fabienne Brugère est ancienne normalienne à Saint-Cloud, agrégée de philosophie. Elle a réalisé une thèse intitulée « Théorie de l'art et philosophie de la sociabilité selon Shaftesbury », soutenue en 1996 à Nanterre. Donc, elle a été maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Toulouse, le Mirail, puis ensuite à Bordeaux. Elle a passé son habilitation sur l'empirisme et ses opérations esthétiques et élue professeure à Bordeaux-Montaigne, puis depuis 2014, recrutée à Paris 8. Voilà. Alors, elle a publié de très nombreux ouvrages que je ne vais pas tous vous citer. Je vous en cite quelques-uns qui sont un peu en rapport avec le sujet qui nous occupe ce soir, à savoir le féminisme. Donc, elle a écrit « Le sexe de la sollicitude » en 2008, « L'éthique du care », « Que sais-je » aux presses universitaires françaises. Et encore une des rares études sur Judith Butler, parce qu'on n'en a pas beaucoup en français, qui s'appelle Judith Butler, trouble dans le sujet, trouble dans les normes, en collaboration avec Guillaume Leblanc au PUF, là encore, en 2009. Voilà. Alors, ce livre, je crois, a été commandé par la directrice de la collection, Laure Adler. Donc, c'est la collection chez Stock qui s'appelle Puissance des femmes. Et alors, c'est amusant parce que le « i est représenté par un petit diagramme, un petit dessin qui représente le sexe des femmes. Voilà. Alors, ma première question, évidemment, elle est en lien avec le titre. Forcément, on ne naît pas femme, on le devient. Parce que j'ai l'impression que cet ouvrage dialogue quand même avec Beauvoir tout du long. Alors, pas que avec Beauvoir, bien sûr, il y a beaucoup d'autres auteurs qui sont cités, mais j'ai l'impression que c'est quand même la principale référence. Bon, il y a le titre, évidemment, « On ne naît pas femme, on le devient ». Il y a la première phrase du livre qui commence par « J'ai beaucoup hésité à écrire ce livre ». C'est mot pour mot ce que dit Beauvoir, « J'ai longtemps hésité à écrire ce livre ». Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi que j'avais noté la même façon de philosopher aussi, c'est-à-dire de ne pas s'enfermer dans une sorte de tour d'ivoire de la philosophie où on ne cite que des philosophes et où on ne commande que des philosophes, mais faire en quelque sorte philosophie de tout bois, d'un film, d'un roman, d'une actualité. Voilà, donc ma première question, c'est quelle place a eu Beauvoir dans ta vie ? Et surtout dans l'écriture de ce livre.
Merci Sylvie pour cette présentation, parce que je dois dire en plus que j'ai commencé à travailler sur la question des femmes et du féminisme justement quand j'étais jeune maine de conférence ici avec l'équipe de recherche à l'époque qui s'appelait encore Sagesse ou qui s'appelait Simone, parce qu'elle a, qui s'appelait voilà, donc c'est forcément assez troublant de de revenir ici. Simone de Beauvoir, alors pourquoi d'abord parce que le deuxième sexe, je l'ai lu à 17-18 ans. Et après, quand j'ai commencé mes études de philosophie, c'était très difficile de croiser ces études-là, étant donné que globalement, ce sont quand même, les philosophes sont majoritairement des hommes, que très souvent, dans l'histoire de la philosophie, ce qu'ils écrivent sur les femmes... ça relève vraiment du préjugé ou de l'opinion, si on veut être gentil, y compris les plus grands, hein, y compris quelqu'un comme Rousseau. Quand dans l'Émile, il fait un livre 5 sur Sophie, c'est quand même tout le modèle de la complémentarité des sexes. Donc, je n'arrivais pas, pendant un certain nombre d'années, je n'arrivais pas à faire le lien entre cette lecture de Beauvoir d'un côté, qui pour moi relevait de la philosophie, et d'ailleurs, je pense que je sais qu'il y a une bataille sur le deuxième sexe, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment un livre de philosophie. En tout cas, c'est un livre qui est en partie un livre de philosophie. On peut sans doute y voir autre chose parce que c'est un livre qui interroge le statut de sujet et donc la possibilité ou l'impossibilité pour les femmes d'être des sujets. Il interroge, bien sûr, la question de la liberté, la question de l'égalité, qui sont des questions de philosophie politique. Et puis, peut-être qu'on peut dire que ce n'est pas un livre de philosophie, parce qu'il fait quelque chose d'assez osé, ce livre, c'est qu'il nous dit pour la première fois dans la tradition philosophique le concept de femme. Il existe un concept de femme. Et donc ça, forcément, pour les philosophes, c'était quand même quelque chose de largement impossible. Et ensuite, ce concept de femme, bien évidemment, il ne le pense pas comme avaient pu le concevoir négativement les philosophes, justement, à travers la philosophie, c'est-à-dire une essence du féminin, cette féminité éternelle qui renvoie à la nature des femmes. Il pense précisément ce concept de femme à travers la tradition de l'existentialisme, de la référence aux existences, que sont les existences des femmes. Et donc, c'est un livre qui analyse les situations des femmes. Et analysant ces situations des femmes, bien, Simone de Beauvoir découvre qu'elles sont largement l'objet d'oppression. Et donc, à travers les situations des femmes, ce qu'elle analyse, c'est toutes les formes d'oppression qui, précisément, entourent les femmes, qui les assignent à une position. Et donc, dans ce livre, je crois que j'ai vraiment eu le souhait de repartir de cette question des situations des femmes et des oppressions auxquelles les femmes continuent de faire face, on pourrait dire, tous les jours, de leur naissance à leur mort. Et d'ailleurs, en ce sens, j'analyse des âges de la vie, des oppressions, justement, des conditions féminines, pourrait-on
ce,
dire.
Ce que faisait un petit peu Beauvoir, d'ailleurs, dans Exactement. La partie formation, puisqu'elle oui, oui. commence avec... pas la naissance peut-être, mais en tout cas l'enfance. Hein.
Oui,
puis
tout
elle,
à fait.
Elle monte dans les âges.
Oui, mais alors la différence, s'il y a une différence, c'est que Beauvoir, dans ce livre, et en général dans ses discussions après, postérieures sur le féminisme, encore dans les années 70, elle met quand même toujours à distance sa propre expérience, parce que son expérience, elle, Simone de Beauvoir, c'est l'objet des mémoires. Et donc, d'une certaine manière, elle sépare les mémoires, les lettres aussi, d'ailleurs, et puis, de l'autre, un livre comme Le Deuxième Sexe, qui, en même temps, est un livre qui, normalement, d'une certaine manière, utilise la voie de la psychanalyse, la voie de la médecine, la voie de l'ethnologie, la voie des textes philosophiques, etc., etc., pour dire les situations des femmes, mais pas sa propre voie. Et ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est mêler en même temps ce travail philosophique à aussi à ma propre voix, et donc revenir à certains moments sur des épisodes de ma vie en tant que fille ou en tant que femme, épisodes à travers lesquels j'ai vraiment le souvenir d'avoir fait l'expérience des normes et de situations qui renvoyaient à cette question de la nomination masculine.
Alors oui, le livre est construit dans une avancée biographique, hein, avec plusieurs chapitres, la naissance, l'enfance, enfin 10 ans, mais l'enfance, 20 ans plus consacrés à l'amour, 30 ans plus consacrés au thème du travail, de la réussite, 40 ans plus consacrés aux soins aux autres, 50 ans, c'est une crise. Et ensuite, un chapitre que tu n'as pas encore expérimenté, mais qui est devant toi, vieillir, et qui est devant nous, vieillir. Voilà, et donc à chaque fois, tu donnes quelques indications biographiques, très pudiques quand même, hein, des toutes petites choses, et tu te situes dans une vision globale quand même, et dans une comparaison notamment, en tout cas c'est très vrai dans le premier chapitre et dans le deuxième, naissance et enfance, dans une comparaison avec les femmes de là-bas, hein, et notamment les femmes d'Asie, puisque, comme tu le dis, finalement, pour naître pour une femme, c'est déjà une expérience rare.
Oui, alors, c'est bien sûr la construction en âge, elle est un peu fictive. Elle correspond à la fois à ce que peut être un parcours de vie, mais elle est un peu fictive. Je l'ai adoptée parce qu'elle permet de penser différents types, justement, de normes. Et je voulais partir de la naissance parce que je me suis dit que... Bon, on pourrait dire d'une part philosophiquement que la vie, c'est toujours une épreuve. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'on peut tenir. Après tout, c'est un cheminement avec toutes ces difficultés. Et donc, on pourrait bien, d'un point de vue philosophique, penser la vie ou l'existence comme une épreuve. Toutefois, il me semble qu'on peut encore dire aujourd'hui, au XXIe siècle, que les femmes et les filles rencontrent beaucoup plus d'épreuves que les hommes, qu'elles font beaucoup plus l'épreuve de la vie. Et donc, ça m'est venu à l'occasion de lectures que j'avais faites, en particulier sur l'Inde et la Chine. Alors, sur l'Inde, il faut préciser que c'est un domaine que je connais un peu pour l'avoir travaillé à partir des travaux d'Amartya Sen et de Martha Nussbaum, qui ont tous les deux déployé précisément des théories féministes à partir de l'Inde et à partir de cette contradiction fondamentale de l'Inde actuelle, à savoir que l'Inde est bien structurée par sa constitution comme une démocratie qui justement pose l'égalité des sexes et en même temps dans son fonctionnement de pays à travers les régions, et d'ailleurs une différence entre le nord et le sud, eh bien il y a vraiment des pratiques de violence faites aux femmes qui perdurent et qui ne sont pas souvent punies précisément. Et donc j'étais partie de cette idée que la naissance est loin d'être la même pour toutes les femmes. Elle est loin d'être la même pour toutes les filles. Ne serait-ce que parce que si on prend donc ces deux grands pays qui à eux deux font quand même une bonne partie du monde, à savoir l'Inde et la Chine, c'est quand même bien plus que ce que peut peser l'Europe en termes de démographie. Eh bien, dans ces deux pays, on fait tout précisément pour que naissent des garçons et que ne naissent pas des filles. Jusqu'à d'ailleurs, dans les classes aisées, en particulier en Inde, eh bien, l'utilisation de toutes les procédures médicales et techniques aujourd'hui qui permettent précisément, avant la naissance, de savoir s'il s'agit d'une fille ou d'un garçon et de provoquer, si besoin, une fausse couche, un avortement, bien sûr, qui n'est pas déclaré comme tel, etc. Et je me suis dit que c'était fou cette histoire parce que ça pose toute la question en même temps de la mésestime des femmes, enfin de la mésestime à laquelle on condamne les femmes, puisque ce sont des mères qui finalement sont vraiment sur le devant de la scène, précisément, dans l'idée qu'il faut à tout prix des garçons et non des filles. Et donc j'ai fait toute cette analyse des filles manquantes qui montre bien que précisément la domination masculine perdure. Et que de ce point de vue-là, eh bien, quand on est dans certains pays et qu'on est une fille, on a un peu plus de chance, en tout cas à la naissance, que dans d'autres pays. Aussi, pour rappeler que la question des femmes, c'est une question mondiale et que quelque part, on ne peut pas oublier, de toute façon, outre ce que l'on peut vivre soi-même, on ne peut pas oublier ce qui se passe ailleurs. Et on ne peut pas oublier la sauvagerie de ce qui se passe ailleurs. Et cette sauvagerie, forcément, elle nous affecte dans nos corps et dans nos esprits.
Alors, tu donnes le chiffre de 150 millions de femmes manquantes ces 30 dernières années, et que ces 150 millions de femmes manquantes pèsent sur nous, qui n'avons pas en Europe ces avortements sélectifs, ou quasiment pas.
C'est-à-dire que c'est vrai que quand on commence à regarder les choses mondialement, bon, ça devient vertigineux. Si on pense, par exemple, que dans un pays comme le Maroc, ça c'est encore un autre point, du point de vue de l'héritage, la même part ne revient pas aux frères et aux sœurs. Je veux dire, c'est toutes ces choses-là, parfois, qu'on oublie. Et qui pourtant nous montre bien que les résurgences actuelles que l'on peut trouver dans les discours et les pratiques d'ailleurs du gouvernement américain, du président américain, qu'on peut trouver aujourd'hui au Brésil, etc., elles ont des échos partout et elles correspondent à des pratiques qui justement se font au quotidien et que parfois nous oublions, que nous taisons ou dont nous n'avons pas forcément entendu parler et qui sont quand même d'une sauvagerie redoutable.
Alors tu donnes un petit détail qui te rapproche encore de Beauvoir d'ailleurs, puisque tu es née aînée, hein, fille aînée, et que tu n'as pas de frère. Et tu penses que ça a pesé, dans le bon sens d'ailleurs, dans ton émancipation, dans ta construction personnelle, dans quel sens ?
Parce que forcément, dans la domination masculine, il y a des tas de choses qui sont conscientes, mais il y a des tas de choses qui sont inconscientes. Et bien évidemment, nombre de féministes ont travaillé là-dessus. Bourdieu l'avait repris dans ce fameux livre sur la domination masculine. Et donc, nous projetons tous, forcément, dans notre travail, dans nos familles, d'ailleurs, que nous soyons des hommes ou des femmes, précisément des conduites sexistes. Et je pense que forcément, qu'en tout cas, ça peut jouer dans une famille. Quand il n'y a pas de garçon, ça oblige moins les parents à être très, très soucieux de ce qu'ils peuvent faire. Quand on a à la fois des filles et des garçons, inconsciemment, voire consciemment, on va beaucoup plus accomplir des partages. Là, c'est beaucoup plus difficile et je crois même que souvent, mon père, ayant été quand même assez triste à la naissance de ma sœur cadette, qui était donc une seconde fille, mon père a forcément projeté du coup sur ses filles des choses qu'il aurait projetées sur un garçon s'il avait eu un garçon, et sans doute pareil d'ailleurs pour ma mère. Je ne sais pas s'il y a des enquêtes là-dessus, s'il y a eu des enquêtes, par exemple sociologiques, justement, mais ça me semble être en tout cas un point qu'on pourrait discuter. Ça peut parfois un peu aider, même si bien évidemment l'éducation, elle se construit beaucoup mieux quand les parents ont vraiment conscience des questions de genre et qu'ils essaient vraiment de corriger toutes ces déterminations sexistes inconscientes que l'on projette souvent sur ses enfants.
Alors un autre détail, mais là on avance, on est dans l'enfance, on est dans les vers 10 ans, hein, selon le livre, où tu montres comment les petites filles se construisent dans les normes et les normes de genre. Et alors toi, tu me donnes deux exemples de normes, une norme plutôt conformiste, tu rêves de devenir majorette.
et une norme plutôt transgressive. Enfin, tu transgresses une norme avec les genoux écorchés en permanence. Et alors, tes parents n'ont pas voulu que tu sois majorette.
En fait, j'ai voulu là réfléchir parce que dans une société comme la société française et dans quelques autres sociétés aussi, on a quand même la possibilité de jouer un peu sur les normes de genre. Enfin, je suis assez... j'aime beaucoup la philosophie de Judith Butler, j'aime beaucoup la philosophie de Michel Foucault. Ce sont justement des philosophies des normes. Ce sont donc des philosophies qui posent toujours le fait qu'en partie, nous sommes toujours assujettis. Et donc, il y a bien toujours une part d'assujettissement aux normes de genre. Et sans doute que précisément dans le fait de vouloir devenir majorette, il y avait bien cette forme d'assujettissement aux normes de mon genre. Enfin de... Et... Mais ce que disent aussi Butler et Foucault, c'est qu'en même temps, il y a toujours aussi des résistances aux normes. Il y a toujours un jeu sur les normes. Et donc, c'est ce que j'ai voulu montrer à ce moment-là, à savoir que si on est élevé dans un cadre qui n'est pas trop strict, même s'il est quand même toujours soumis à des partages de genre, eh bien, effectivement, on peut à la fois rêver d'être majorette et s'habiller en même temps comme un garçon ou jouer au jeu de garçon. Enfin, voilà, j'ai voulu montrer cela, ce qui n'est pas possible, bien évidemment, partout. Je ne sais pas si vous avez vu ce superbe film « La bicyclette ». D'une metteuse en scène d'Arabie Saoudite et qui montrait comment cette petite fille de 8 ans qui avait envie justement d'avoir un vélo et de faire du vélo, ben normalement justement ne pouvait pas le faire parce que c'était réservé aux garçons. Et ce film, c'est toute son envie précisément de pouvoir conduire un vélo. Et donc au moment de l'enfance, il y a une construction du genre, mais il y a aussi un désir des enfants, et puis il y a plus ou moins d'écart dans ces normes de genre. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu montrer, tout en disant aussi que les jouets sont pernicieux parce qu'ils construisent des partages. Hein. C'est quand même flagrant de voir comment, par exemple, des jeux comme les Playmobil. Moi, ça m'a frappée au fur et à mesure que mes filles grandissaient, parce qu'il se trouve que j'ai deux filles. Ça m'a, c'est pas un choix, puisqu'on ne choisit pas normalement ces choses-là. En fait, ça m'a frappée de voir du point de vue des Playmobil comment on est passé petit à petit, de plus en plus dans les magasins de jouets, à une disposition sexuée des Playmobil. L'aéroport et la station-service du côté des garçons du bleu, et puis le cirque, l'école du côté du rose. Et donc le jeu est pernicieux. Parce que le jeu, s'il est sexué et s'il est pensé en fonction de détermination de genre, eh bien, il va apprendre à construire des rôles et en même temps, on va apprendre à construire ces rôles en jouant, c'est-à-dire avec du plaisir et avec, d'une certaine manière, une certaine liberté dans l'exercice de cette construction. Et donc ça, forcément, c'est particulièrement pernicieux parce que ça revient... Ensuite, dans la vie que l'on peut se construire. Et donc, il me semble que précisément aborder les questions de genre chez les enfants et avoir le souci des jeux, avoir le souci aussi des questions de genre à l'école, eh bien, c'est justement particulièrement important. Et justement, toutes celles et ceux qui actuellement tiennent à la domination masculine font justement tout, et c'est pas un hasard, pour que ces questions de genre, elles ne soient pas introduites justement dès l'enfance. On fait tout pour que les jeux soient bien sexués et pour qu'il y ait... Parce que précisément, c'est essentiel. C'est essentiel pour construire la domination masculine.
Tu donnes aussi l'exemple... que sans doute certaines d'entre vous connaissent, de la cour de récréation, où il y a des espaces sexués très très clairs et très... Alors là, pour le coup, plus dans le jeu des pairs, hein, entre les enfants eux-mêmes, mais bon, les enseignants ne réagissent pas forcément beaucoup non plus. Et ça aussi, ça structure une personnalité, ça structure des compétences spatiales différentes.
Oui, d'ailleurs, sur cette question-là, alors les expériences en même temps sont assez variées, mais enfin, il y a quand même des enquêtes assez précises qui ont été faites, y compris par certains de mes collègues de Bordeaux, dont Yves Rébeau. Et je me demande si de ce point de vue-là, les choses n'ont pas empiré. En plus, cet amour mondial du football qui fait que tous les petits garçons rêvent de jouer au football dans la cour de récréation et prennent donc toute la place. Enfin, même si il y a sans doute des écoles, même c'est sûr, parce qu'il y a des écoles où justement on essaie de faire autrement, où les enseignants essaient de faire fonctionner autrement la cour de récréation, mais en même temps, je crois que là-dessus, oui, il y a vraiment de vraies constructions des rapports de genre.
Alors, on avance dans la vie. On arrive à 20 ans, donc l'âge de l'amour, qui est aussi l'âge de la réussite scolaire, CAGNE, HypoCAGNE et l'ENS. Et là, tu adoptes un peu une vision bourdieusienne, oui, de l'amour pur, de l'amour très fort, capable de suspendre les rapports de genre dans cette relation complètement égalitaire.
Oui, parce que le texte de Bourdieu, c'est quand même un texte, La domination masculine, c'est quand même un texte très étonnant. Parce que c'est bien un texte qui emprunte d'ailleurs à ce moment-là de nombreuses féministes américaines, en particulier la question des rapports de genre et des rapports de domination qui s'y jouent dans ce jeu entre le conscient et l'inconscient. Et il y a ce texte ajouté à la fin comme un, d'ailleurs appelé addendum, dans lequel, en fait, Bourdieu, assez curieusement, qui est quand même bien quand même ce sociologue des rapports de domination, nous dit qu'il y a une expérience dans laquelle il n'y a pas de rapport de domination de genre, c'est l'amour. Et il appelle ça l'amour pur et il le définit comme quelque chose qui serait né dans un certain nombre de pays à partir de la fin du XIXe siècle et qui, globalement, pourrait-on dire, aurait comme origine un peu l'amour romantique. Enfin, bref, l'attraction considérable de deux personnes qu'on n'a pas cherché à marier en fonction, justement, des clans, des familles. Et c'est quand même assez étonnant dans la bouche de Bourdieu. Et je crois qu'effectivement, l'expérience de l'amour, alors après il y a toute la question de la durée, mais la question de l'expérience de l'amour que du coup j'ai identifié aux 20 ans parce que c'est assez facile, c'est souvent le moment où on rêve cette possibilité de l'amour par excellence. L'expérience de l'amour, c'est sans doute ce moment où peut justement se construire une forme d'égalité, une forme d'égalité d'ailleurs entre deux êtres de sexe différent, comme deux êtres de même sexe. Mais je crois que peut s'inventer, dans l'expérience de l'amour, oui, quelque chose qui est de l'ordre d'une possible égalité. Parce que, justement, l'amour, et là, je suivrai assez là-dessus les textes d'Alain Badiou, l'amour, c'est assez communiste. C'est peut-être d'ailleurs le seul lieu où le communisme peut réellement marcher. Je pense que le communisme, il suppose justement l'amour pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir mettre en commun. Je pense qu'il faut précisément s'aimer. Or, l'amour, c'est ça. C'est aussi la mise en commun, c'est la construction d'une histoire commune, c'est la mise en commun de vie. Et c'est pas pour autant une fusion, justement. Ça va pas du coup dans le sens d'une lecture de l'amour fusion. C'est justement une personne plus une personne. Et la première ayant autant de droits que la seconde, en quelque sorte. Et je crois que dans dans ce qu'on peut faire comme expérience amoureuse, on peut effectivement faire l'expérience d'une égalité de genre.
C'est un peu paradoxal parce que c'est quand même une idée très développée par les féministes que l'amour, c'est le piège pour les femmes. La maternité, évidemment, ça aussi, mais l'amour aussi, hein, le mythe du prince charmant et les femmes se donnant beaucoup plus qu'elles ne reçoivent dans cet échange très inégal. Et toi, tu dis pas ça, justement.
Non, je dis pas ça parce qu'en fait, j'ai beaucoup lu les féministes radicales et j'ai été beaucoup séduite par un certain nombre de féministes radicales, dont Judith Butler, dont d'autres, et parfois j'en reviens un peu. Et en particulier, j'avais beaucoup lu Catherine MacKinnon. Et Catherine MacKinnon, d'une certaine manière, si je caricature un peu son propos, mais à peine, ce qu'elle nous dit, c'est que l'amour hétérosexuel est toujours habité par la domination. Que l'acte même de faire l'amour d'un point de vue hétérosexuel, c'est un acte de domination. Et en fait, je suis pas du tout convaincue par ça. Je suis pas du tout convaincue par ça parce que je ne suis pas sûre, d'abord, les choses se déplacent beaucoup. Tout amour hétérosexuel n'est pas forcément un amour hétérosexuel au sens classique du terme. Il peut se combiner avec d'autres formes d'amour. Un couple peut inventer lui-même sa propre manière, après tout, de faire l'amour. Et donc, il est toujours dans la possible invention. Tout couple peut être dans la possible invention, y compris un couple hétérosexuel. Et donc, effectivement, je projetterai un peu ce que Michel Foucault disait, alors lui, plutôt des amours homosexuels, lorsqu'il disait que la chance des amours homosexuels, c'est qu'elles permettent davantage d'inventer parce que précisément les amours homosexuels sont moins prises par des normes de genre. Moi, je crois que ça, on pourrait le dire de tout amour. Je crois que ça ne veut pas dire que ça va arriver, mais ça veut dire que ça peut arriver. Et là-dessus, je crois que tout dépend de la manière dont se construit une relation entre un et un, et de la forme que prend justement cette relation, qui par ailleurs peut très bien être aussi une relation de domination. Mais à ce moment-là, c'est pas l'amour pur que j'essaie de construire et qui, cela dit, à mon sens, est bien évidemment rare et souvent court aussi dans la durée.
Alors, on passe à la trentaine. à la trentaine et à l'analyse de la place que les femmes occupent dans le travail et la dureté qui pèse sur elles dès lors qu'elles veulent réussir. Avec une exigence, dis-tu, bien supérieure, hein, qui pèse sur elle, mais aussi des difficultés dans le relationnel à imposer l'égalité et des injonctions régulières à la maternité. D'ailleurs, tu en donnes une qui t'a concernée personnellement. Oui. Je ne sais plus si c'est dans le chapitre d'ailleurs des 40 ans ou des 30 ans.
Mais c'est vrai qu'on peut les prendre un peu ensemble, ces deux chapitres, parce que la question du travail... c'est forcément une question sur laquelle de nombreuses féministes ont travaillé. Pour ma part, c'est une question sur laquelle j'ai aussi réfléchi parce que, comme tu le disais tout à l'heure, j'ai travaillé sur un courant anglo-américain qui est le courant des Ethics of Care qui regroupe toute une analyse des situations de prendre soin, du travail domestique, du travail d'assignation des femmes à la fois aux soins de leurs époux, de leurs enfants, des personnes âgées. Et puis, donc cette question du travail, c'est à la fois, bien sûr, la question du travail, on pourrait dire, invisible des femmes. Et ça, c'est quelque chose qui dure. Et on sait bien qu'en France... on est toujours dans le cadre de cette double journée des femmes. Et quand j'ai eu des enfants, je me suis retrouvée dans une situation assez nouvelle, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai bien vu qu'une partie de la société ne me voyait plus de la même manière, ne voyait plus justement la possibilité de réussir dans le milieu du travail de la même manière. Et ça, c'est quasiment inconscient. C'est un sexisme qui surgit immédiatement. Quand une femme a des enfants, c'est tout de suite, eh bien oui, il va falloir que tu privilégies le fait de t'occuper de tes enfants, que le travail passe en second, comme si on ne pouvait pas faire les deux. C'est vrai que souvent, il est très difficile de faire les deux. Et donc, je crois que ces deux questions, cette question du travailler, que j'ai plutôt finalement posé avec les 30 ans, et cette question du prendre soin que j'ai plutôt posé avec les 40 ans, elles sont intimement liées parce que précisément, en même temps, le prendre soin, c'est bien une activité ou un travail des femmes, mais le moins reconnu possible. Et puis le fait de pouvoir réussir pour les femmes, c'est quand même tout un parcours du combattant, le fait même dans certains pays de pouvoir avoir un travail, puisqu'il y a encore des pays où précisément il faut une autorisation du mari pour que la femme travaille. Et forcément, je pense que les choses aussi prennent des tournures spécifiques à l'âge du néolibéralisme. Parce que finalement, à l'âge du néolibéralisme, on nous présente des femmes emblématiques, comme par exemple la directrice de Facebook qui nous explique justement comment réussir, elle qui est devenue milliardaire. Et en même temps, si on réfléchit un peu, on se dit, certes, mais comment dire à une femme migrante sans papier qu'elle va pouvoir réussir demain comme la directrice de Facebook, enfin. Et donc la question du travail et la question aussi du prendre soin, ça renvoie à ce monde qui est de plus en plus inégal et où finalement certaines femmes arrivent à des positions qui les font peut-être d'ailleurs sortir finalement de la condition commune des femmes, et puis où la majorité des femmes dans le monde d'abord sont pauvres, sont obligées de s'occuper des autres, travaillent dans certains pays dans les champs sans être rémunérées, enfin. Donc là, ça donne le vertige. Et puis je crois aussi, parce que je vais assez souvent au Maroc, et il se trouve qu'au Maroc, je travaille aussi avec des femmes incroyables qui sont des psychologues cliniciennes. Et c'est très intéressant de voir comment dans un pays comme le Maroc, précisément, la difficulté des femmes à être reconnues dans le rapport à un travail visible, la difficulté à être séparée de leurs liens justement aux soins de la famille, eh bien, crée de véritables souffrances psychiques qui sont en fait énormes. Donc moins on est libre, moins on est heureux aussi, plus on souffre et plus la longueur de la vie avec toutes ces épreuves devient justement difficile.
Et là, le partage des tâches quand même. L'amour pur, en général, ne résiste pas au premier enfant et au travail domestique et au partage des tâches qui se fait pas ou très, très difficilement. Enfin, les statistiques sont assez claires, là.
Ah oui, oui. Non, c'est évident que la question des enfants, à mon avis, et la nécessité de se battre en tant que femme sur cette question, elle est essentielle dans le monde entier. Par exemple, je suis allée plusieurs fois au Japon parce que l'un de mes livres, justement sur l'éthique du care, est traduit en japonais. La situation des femmes au Japon, c'est vraiment effrayant. C'est effrayant de voir comment, à partir du moment où dans un couple, il y a un enfant, étant donné que les Japonais travaillent beaucoup, qu'ils travaillent souvent loin de leur habitat, etc., systématiquement, il ne se pose même pas la question, c'est la femme qui s'arrête de travailler et qui assure tout ce qui concerne précisément le soin de la maison, le soin des enfants. Donc, cette question des enfants, je crois qu'on doit se battre là-dessus. Et pour moi, c'est vraiment inaudible de penser que dernièrement, le gouvernement français s'est opposé à un projet européen de congé parental paritaire, de financement du congé parental paritaire. Parce que ça c'est le nerf de la guerre, enfin, c'est l'un des nerfs de la guerre dans le projet d'un féminisme ordinaire. La possibilité précisément matérielle, mais je dis bien matérielle, trébuchante, quand on a des enfants, que le congé parental soit partagé, qu'il soit financé pour cela, et que les conjoints, ou en tout cas le deuxième parent dans un couple, l'autre parent dans un couple, eh bien puisse lui aussi justement faire l'épreuve du soin, et parce que le soin ça ne s'invente pas, et que c'est incroyable de croire que ce serait plus facile pour les femmes. C'est incroyable de croire qu'il y aurait une nature des femmes qui ferait que parce que c'est elles qui portent l'enfant, et bien automatiquement elles vont savoir précisément comme ça par magie justement lui conférer tous les soins nécessaires. C'est vraiment un point, à mon sens, essentiel. Le jour où on aura vraiment, je parle en tout cas des couples qui ont des enfants, parce qu'il y a aussi toute la place des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui est quand même assez difficile dans la société française et dans d'autres sociétés. Mais le jour, en tout cas, où on pourra vraiment partager le soin entre hommes et femmes, eh bien, la société ne sera plus la même, parce qu'elle n'envisagera plus non plus de la même manière le rapport au travail, et on sera beaucoup plus critique justement à l'égard de tout ce qui est société de marché, néolibéralisme, cadence de travail, etc.
Non, mais il y a d'autres, les écologistes aussi, hein.
Alors, on arrive à la cinquantaine. Très bel âge, la cinquantaine. qui est l'âge de la crise. Enfin, tu le résumes ainsi. Ouais. Hein. Crise personnelle pour les femmes, avec les bouleversements hormonaux que vit le corps. Crise du couple. Crise aussi du travail, du départ des enfants. Mais également renaissance, une fois que voilà, cette crise a permis de tout faire éclater ou de tout mettre à plat, renaissance et renouveau finalement.
Enfin, en tout cas, c'est ce qui de... Parce que le livre est toujours construit sur l'idée qu'il y a les normes, mais que précisément ces normes de la domination masculine, on doit aussi essayer de les déjouer, d'en faire quelque chose. Alors bien sûr, ce que je montre à chaque fois, c'est que c'est plus ou moins possible, et que c'est plus ou moins possible aussi selon les différentes régions du monde. Parce que finalement, arriver à 50 ans, arriver encore plus âgé, ça suppose dans beaucoup de cas d'être aussi dans des pays où l'espérance de vie est suffisamment longue. En fait, les enquêtes montrent, et moi j'en ai fait l'expérience aussi dans le rapport à mes amis, à mes proches, les expériences montrent qu'effectivement il y a une crise de la cinquantaine qui frappe plus les femmes que les hommes, et qui souvent est une suite de cascades, le travail, la vie privée, et en même temps il y a ce gros sujet plus ou moins tabou dont on ne parle pas, dont on parle de plus en plus, à savoir l'après-ménopause, puis la ménopause, et qui doit quand même être pris et qui doit être prise en considération, qui pour moi était forcément une difficulté, parce que forcément j'ai travaillé sur, disons, des féminismes, on pourrait dire culturalistes ou constructivistes, et se dire qu'à 50 ans, il y a en même temps quelque chose comme le retour du corps hormonal, et que finalement on pourrait voir quand même la vie des femmes comme étant aussi l'histoire d'un corps hormonal, Eh bien, c'était pas si simple. C'était pas si simple. Et par ailleurs, finalement, il y a eu un livre qui a été écrit dernièrement sur les femmes et les règles. Ça renvoie aussi à toute cette question de la fécondité des femmes, à toute cette question des règles dont on parle quand même toujours à voix basse. Et je me dis que si un jour on pouvait parler des règles dans un pays comme la France autrement qu'à voix basse, ce serait quand même qu'il y aurait eu de grands bouleversements. Or, c'est fou de penser qu'en 2019, eh bien, on n'en est toujours pas là, et que d'une certaine manière, en général, quand on a des filles, on apprend à nos filles à se rapporter de manière assez discrète à leurs règles, parce que justement, on se dit sinon, tout le monde va les regarder comme des êtres étranges. Et donc, on voit bien qu'il y a des tabous. Et 50 ans, je crois que c'est un moment qui renvoie un certain nombre de tabous de la féminité, à la fin aussi à venir de la période de fécondité. Alors, on sait très bien qu'on pourrait avoir cette lecture que je reprends un moment de Françoise Héritier, c'est-à-dire que le contrôle des hommes sur les femmes, il tient aussi au corps fécond et au fait précisément de pouvoir contrôler ce corps fécond. Or justement, si on imaginait l'émancipation des femmes à partir de la cinquantaine, ben, finalement, du point de vue des hommes, ce ne sont plus des corps à contrôler. Ce ne sont plus des corps à contrôler, mais pourtant, on continue à contrôler ces corps féminins. Les femmes elles-mêmes continuent à se contrôler. Et puis, il y a tout ce rapport à la vieillesse. Il y a tout ce rapport à la vieillesse qui vient et qui fait que, précisément, on n'évalue pas les hommes et les femmes de la même manière quant aux apparences de vieillesse. Les rides ne sont pas du tout appréhendées de la même manière pour les femmes et pour les hommes. Et d'ailleurs, je reprends ça à la fin des 50 ans, le fait qu'on ait inventé cette expression de cougar pour parler précisément des femmes de 50 ou de 60 ans qui sont en couple avec des hommes beaucoup plus jeunes, expression quand même très, très méprisante. C'est tout à fait à l'image de ce que notre société attend et de ce qu'elle n'attend pas.
Et tous ces exemples que tu donnes aussi de ces actrices qui voient leur carrière finie, hein, parce que c'est la carrière d'une femme, elle est liée à sa beauté, à sa fraîcheur, à sa jeunesse. Et passé 50 ans, il n'y a plus que des rôles de mamie, hein, qu'on offre aux actrices. Tandis que les hommes continuent à donner des coups de poing victorieux dans tous les sens, hein, à 70 ans passés, sans problème. Alors, on arrive à vieillir, donc qui est plus un épilogue qu'un chapitre à proprement parler. Et là, tu t'appuies sur l'ouvrage de Simone de Beauvoir, La vieillesse, que finalement on connaît peu, qu'on lit peu, qui date de 1970, je crois, hein, donc, et que tu trouves extrêmement pessimiste, extrêmement noir.
C'est-à-dire qu'on peut avoir deux lectures de ce livre que j'ai lu assez tard parce que il m'est souvent tombé des mains. D'abord, il est très gros, mais comme après tout le deuxième sexe, c'est très gros aussi. Mais il est tellement. C'est-à-dire qu'on peut avoir une première lecture que moi j'ai souvent faite de ce livre, à savoir qu'à ce moment-là, lorsque Simone de Beauvoir écrit La vieillesse, quelque part, elle inconsciemment ou consciemment, ou en tout cas, elle est dans une affirmation assez masculiniste. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, Simone de Beauvoir, et ça c'est Tori Moy qui le montre dans un de ses livres sur Simone de Beauvoir, a toujours eu une obsession de la vieillesse. Elle a toujours eu une peur de vieillir. C'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs fréquemment sous différentes formes dans ses mémoires. Et ça, c'est quand même, par excellence, je pense, l'intégration de la domination masculine, parce que précisément on nous dit bien que le compte à rebours, il est toujours en train de précisément de tourner pour les femmes, et on nous fait bien penser la vieillesse comme étant vraiment la déchéance. Et ce livre là je trouve qu'il part quand même de ça chez Simone de Beauvoir, c'est-à-dire du fait que que pour elle, de toute façon, la vieillesse est une déchéance. Alors qu'en même temps, c'est assez étonnant parce que elle aurait pu totalement, elle l'a en partie retourné, mais elle aurait pu retourner ça radicalement avec tout son parcours, avec tous les livres qu'elle avait écrits, la reconnaissance qu'elle avait acquise. Le deuxième sexe, c'est quand même un livre, c'est un best-seller mondial. Et en même temps, sur cette question de la vieillesse, elle reste finalement très dépendante, je trouve, des représentations que l'on colle aux hommes et aux femmes. Ce qui fait qu'effectivement, elle a une vision de la vieillesse extrêmement noire, et dans cette vision noire, elle explique que justement, c'est encore pire pour les femmes que pour les hommes, qu'elles sont totalement invisibilisées. Et en particulier, en plus, alors là, forcément, c'est Simone de Beauvoir des années 70, donc il y a aussi toutes les analyses de classe. Et donc, avec un souci particulier aussi pour les femmes pauvres, eh bien, elle explique justement ce qu'est la vieillesse des pauvres et en quoi la vieillesse des femmes pauvres est encore pire que celle des hommes pauvres. Et bien sûr, ça renvoie au fait que se constitue dans la vieillesse, certes, on pourrait dire une invisibilisation des hommes comme des femmes, mais qu'en même temps, l'invisibilisation des femmes, elle est souvent bien plus grande encore que celle des hommes. Donc même à ce moment où pourrait se recréer finalement une sorte d'égalité de genre, c'est pas si simple. C'est pas si simple, d'autant que je me suis un peu amusée, parce que forcément, quand on est philosophe, il y a le terme de sagesse et le terme de sage. Or, justement, le sage, dans la philosophie ancienne, eh bien, c'est toujours un homme, c'est toujours un homme vieux, c'est jamais une femme. Et je crois qu'on a jamais... Et quand on parle, bien sûr, des femmes, c'est des sages-femmes, c'est-à-dire celles qui donnent la vie et qui, en même temps, dans l'histoire, parfois, sont ces femmes étranges, un peu sorcières, qui avortent aussi, etc. Enfin, on n'est pas du tout dans la même figure. Et peut-être pourtant qu'à ce moment-là, il y a sans doute quelque chose à réinventer. Donc là, je laisse en même temps finalement l'approche assez ouverte. Mais c'est vrai que le dialogue du coup avec Simone de Beauvoir se termine sur ce qui était aussi le pessimisme de Simone de Beauvoir à la fin de sa vie. Puisque même dans les années 70, avant le manifeste des 343 salopes, il y a ce moment précisément où elle dit « Je n'écrirai plus ce que j'ai écrit dans le deuxième sexe », ce livre dans lequel je pensais aussi une libération des femmes, et libre dans lequel elle écrit cette phrase que vraiment j'aime beaucoup, « L'avenir demeure largement ouvert ». Ça, elle dit aujourd'hui, dans les années 70, je n'écrirai plus ça parce que finalement, la situation des femmes depuis 1949, eh bien, elle ne s'est pas améliorée. Donc, voilà, je voulais discuter ce pessimisme de Simone de Beauvoir qui est aussi la conviction que tant qu'on ne changera pas de système de société, eh bien, profondément, on ne changera pas les rapports entre les femmes et les hommes. Alors, je suis à la fois en accord et en désaccord avec cette phrase. Je suis, bien sûr, en accord sur le fait que tant qu'on ne concevra pas le travail autrement, tant qu'on ne concevra pas la société autrement que comme une société exclusivement marchande, eh bien, restera forcément... une certaine position du corps des femmes, la possibilité d'acheter les femmes, et puis le fait que précisément, eh bien, on assigne les femmes au travail de soins. Mais il ne faut pas attendre le grand jour en même temps. C'est ça que... Et je crois que, par exemple, la loi sur l'interruption de grossesse de 1974, c'est quand même quelque chose de fondamental en France et qui porte quand même la possibilité d'un chemin féministe. Et donc, de la même manière aujourd'hui, il faut imaginer d'autres modèles de société, mais il faut aussi pouvoir se battre sur des mesures féministes très concrètes. Et ça, je crois que aujourd'hui, on a un peu tendance à l'oublier. C'est devenu plus difficile. C'est devenu plus difficile qu'il y a 10, 20 ou 30 ans, parce que d'abord, il me semble que le mouvement féministe est beaucoup moins internationalisé. Il me semble que forcément, il est beaucoup plus éclaté et qu'on a du mal à réellement pouvoir se mobiliser sur des mesures fortes et concrètes, et que pourtant ça, c'est aussi le nerf de la guerre.
Bon, et alors, on va maintenant passer au débat. Je poserai juste une dernière question qui est d'ailleurs pour ouvrir le débat. Tu plaides pour ce que tu appelles un féminisme ordinaire. Hein. Beauvoir avait beaucoup abrité les féministes des années 70 qui dénonçaient le sexisme ordinaire. Et toi, tu plaides pour un féminisme ordinaire, et donc un peu loin des théories, un petit peu loin justement des grands soirs et des solutions un peu miracles.
C'est qu'il me semble qu'il y a les théories féministes et les études de genre, elles sont fondamentalement intéressantes d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire d'un point de vue de recherche. Et je crois vraiment, pour travailler en plus avec à Paris 8, avec l'équipe LEGS, qui est la seule UMR d'ailleurs en France sur les questions de genre, et puis qui a une histoire particulière. Je crois que les études de genre, c'est fondamental, mais ça relève avant tout dans un premier temps de la recherche et donc de ce que l'on peut produire en tant que chercheur ou chercheuse. Mais ça ne doit pas occulter le fait précisément qu'on a aussi un terrain qui est celui de la vie ordinaire, et que précisément on ne devrait rien lâcher sur la vie ordinaire, et qu'en fait toutes et tous on lâche beaucoup sur la vie ordinaire. Et je crois que là-dessus, je pense qu'on a perdu. Enfin, je crois que dans les années 70, comme le combat était très présent et comme la nécessité de l'émancipation était très là, je me dis que sans doute, à la fois il y avait aussi des théories très alternatives, mais il y avait aussi le fait de ne pas lâcher sur ce qui se passait dans le monde ordinaire. Il me semble qu'aujourd'hui on lâche beaucoup, que finalement cette résolution de l'ONU, et là je parle aussi pour moi, cette résolution de l'ONU qui ne s'est pas faite au sujet des violences de guerre commises sur les femmes, elle ne s'est pas faite à cause donc de trois pays, les États-Unis, la Chine et la Russie. Il me semble que finalement nous n'avons pas beaucoup réussi à nous faire entendre là-dessus, et que là-dessus il faudrait pouvoir se faire entendre internationalement, et quelles que soient nos positions féministes, je crois qu'on peut toutes et tous s'entendre sur le caractère inadmissible de cette position qui a été prise. Et bien évidemment on pourrait citer tout à fait d'autres exemples. Le combat pour le droit à l'avortement reste un combat, et on voit bien comment aux États-Unis actuellement, avec le président qui est là, comment il y a des régressions en termes de droit à l'avortement. Il faut pas oublier que de nombreux pays ne pratiquent pas légalement l'avortement. Je me dis qu'il faut s'accrocher au concret et aux situations ordinaires, comme par exemple, et ça c'est peut-être aussi la révolution MeToo qui permettrait d'aller en ce sens, le harcèlement au travail. C'est une question, le combat contre le harcèlement au travail, c'est une question de féminisme ordinaire. Ça ne changera pas le fait de lutter contre ce harcèlement au travail, ça ne changera pas totalement notre modèle de société, mais ça peut changer malgré tout les relations entre les femmes et les hommes, et ça peut changer les rapports de pouvoir tels qu'ils s'appliquent violemment parfois.
il y a beaucoup de femmes.
Il y a un micro si nécessaire.
Bonsoir, merci. Excusez-moi, je suis arrivée un peu en retard. Je vous remercie d'avoir souligné avec finesse la différence qui passe par le statut, on va dire, financier et social entre les femmes du peuple, entre guillemets, hein, les femmes fragiles dans leur statut social, leurs conditions, leur origine, et un certain nombre de femmes qui, et tant mieux pour elles, ont eu accès à un parcours professionnel ou par leur mariage, puisque nous sommes grandement, peut-être vous auriez pu évoquer ce problème dans une société du showbiz. Hein. Je lisais quelqu'un de célèbre qui s'était fait payer 1 million d'euros pour son garde du corps qui avait raté son office. Vous voyez, on arrive à une démesure. Donc je vous remercie d'avoir reciblé la question féministe dans un cadre économique. Par ailleurs, si je peux m'autoriser, en tant que femme ayant aussi 40 ans de travail, mère, grand-mère, et ayant vécu une vie assez libre et avec ses enfants, et élevé ses enfants grandement seule. Je pense que l'enfant est une question complexe, que c'est à la fois un poids, on le sait, moi j'en ai deux, mais il y en a qui en ont bien plus, et ils sont grands, et je suis mère et grand-mère, c'est en même temps un pouvoir de vie. Vous avez souligné à juste titre que les femmes sans enfants, c'est une souffrance. Hein non, c'est pas... Pour certaines.
Ce que je voulais dire pour les femmes sans enfants, je voulais dire que la société avait toujours un regard sur elles comme si elles étaient moins que des femmes avec enfants. Ah, et d'ailleurs, il y a un terme qui est celui que je reprends dans le livre, qui est celui de parturiente, et qui fait que précisément, on a comme ça inventé un terme pour qualifier justement les femmes sans enfants, alors qu'on n'a pas le terme équivalent pour qualifier les hommes sans enfants.
Excusez-moi, je ne voudrais pas occuper trop la parole, je voudrais dire simplement que dans mes amis d'enfance, de longue date, certaines qui ont réussi brillamment, médecins, profs de fac, celles qui n'ont pas d'enfants ont fait des démarches pendant des années pour adopter des enfants. Ce qui prouve bien, excusez-moi madame, je regarde autour de moi, je dis que j'ai eu des confidences de femmes qui avaient réussi leur parcours professionnel ou intellectuel et qui ressentaient ce manque. Donc y a ça, et d'autre part, autour de moi, je vois que c'est un choix très complexe pour les femmes qui ont un enfant de se mettre en congé parental, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc cette question de l'enfant, à mon avis, elle est complexe dans le statut de ces Montrelais, le partage des femmes. Hein. La femme mère est effectivement divisée. Voilà, merci beaucoup.
Merci. Je crois qu'il y a quand même pas mal de femmes dans le monde, en France et ailleurs, dont c'est le choix de ne pas avoir d'enfants. Et je pense qu'il faut vraiment le souligner. Les femmes qui n'ont pas d'enfants... Voilà, il ne faut pas mettre toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants dans le même panier et dire que, oh, les pauvres Oui, mais c'est pas toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Enfin voilà, je voulais juste recadrer un petit peu ça. Merci.
Qu'en est-il du rapport de la mère à la fille et du rapport de la mère au fils? D'après mon expérience, je trouve que c'est le second rapport qui est privilégié.
Moi, je crois que là-dessus, c'est difficile de généraliser. Tout dépend des mères, tout dépend des filles, tout dépend des fils, tout dépend des pères. Je crois qu'il y a des expériences extrêmement différentes. Donc, un rapport mère-fille, je n'arriverai pas à le qualifier comme cela, parce que tout dépend vraiment aussi de la qualité de la relation. Tout dépend de ce qu'est la mère. Il y a des mères qui contraignent leurs filles et leurs garçons, d'ailleurs, aussi à certains types de devenir. D'autres qui, au contraire, essaient de leur faire acquérir le plus de liberté possible par rapport aux normes de genre. Donc, je me garderai bien de répondre là-dessus, d'autant que... Alors si, peut-être que si je pouvais répondre là-dessus, je répondrais que les choses sont toujours compliquées parce qu'effectivement, la société attend en même temps toujours quelque chose des mères, elle attend toujours quelque chose des filles, des fils, et que forcément, dans une famille qui essaie, par exemple, d'élever ses enfants... Dans le registre d'une certaine égalité de genre, il y a forcément des ratés. Il y a forcément des ratés parce que la société, de toute façon, est toujours là, parce que, de toute façon, il y a chez nous aussi des représentations inconscientes. Et moi, je me suis toujours rendu compte que même si on essaie de construire des relations égalitaires entre deux parents dans une famille, eh bien, quand il s'agit d'un couple hétérosexuel, les enfants, malgré tout, projettent des normes de genre sur leurs parents. Ils le font parce que forcément, c'est la société qui est comme ça. C'est la télévision, c'est la rue, c'est le milieu du quartier dans lequel on évolue, c'est la famille au sens large. Et donc, en même temps, je pense que ce qui est très dur pour des parents qui essaient finalement d'être féministes et de développer de l'égalité, c'est que c'est toujours voué en partie, je dis bien seulement en partie, à l'échec, parce qu'il y a toujours un moment où les enfants essaient de redéployer aussi ce qui est la norme attendue. Et aussi parce que qui n'a jamais parmi justement les parents, qui n'a jamais entendu un professeur ou une professeure des écoles dire « c'est l'heure des mamans », pour l'heure précisément où on vient. Donc, j'aurais du mal, en tout cas, d'autant que votre question, elle supposerait peut-être d'aller voir aussi du côté de la psychanalyse, bien évidemment. Or, justement, je vois bien, c'est quelque chose que je n'ai pas voulu faire dans le livre. Non, c'est pas de la sociologie, parce que c'est aussi de la philosophie, mais je n'ai pas... Non, je pense que c'est pas une limite. C'est parce que, si vous voulez... D'abord, il n'y a pas une psychanalyse, il y a des psychanalyses, et je me méfie beaucoup aussi de ce qu'on fait dire à la psychanalyse en termes de rapport mère-fille ou mère-fils. Et bien sûr, ça renvoie au complexe d'Oedipe et autre chose. Et puis, j'ajouterai par ailleurs que mon livre est un livre de perception. C'est un livre sur la question de la perception des normes. Et si vous voulez, en ce sens-là, il n'a pas la prétention d'expliquer pourquoi la domination masculine. C'est pas ça l'enjeu du livre. L'enjeu du livre, c'est de montrer dans la vie des femmes et aussi dans les relations entre les hommes et les femmes et les relations entre les femmes et les femmes et les hommes... avec les hommes, ces questions de normes, et puis de dire aussi comment on peut essayer d'aller ailleurs et comment on peut aussi justement exercer notre liberté, selon une idée, à mon avis, spinoziste, qui a pourtant totalement sa valeur, c'est que connaître, c'est déjà commencer à se libérer. Et donc, quand on connaît les normes de genre, quand on les perçoit, quand on les appréhende, eh bien, on a plus les moyens de s'en libérer. Et ça, j'en suis largement convaincue.
Oh, j'ai pas besoin du micro. Alors, en tant que fille et femme et sœur, etc., j'ai 60 ans. Donc, j'ai parcouru tout le bouquin déjà moi-même. Et voilà comment je vais résumer, mais je voudrais pas être pessimiste, hein, parce que j'aime la vie, mais quand même. Mais en fait, mes injonctions parentales, c'était « Sois belle, marie-toi et tais-toi ». Et maintenant, c'est devenu « Reste belle, travaille et tais-toi ». Alors voilà tout ce que j'avais à dire. Est-ce que c'est ça la libération de la femme? On est passé du mari au patron. Voilà. Et on est seule. On est toutes seules. Regardez, il n'y a que des femmes ici. On est toutes seules.
Il y a quelques hommes. Voilà. Ce sont des singularités comme chacun et chacune d'entre nous. Donc, voilà. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des hommes dans l'assistance.
Et quand j'ai deux filles, quand j'ai eu des filles, je n'ai pas réfléchi. J'avais 18 ans, donc j'étais jeune. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est une fille. Elle va en baver. Moi, voilà. Non, mais c'est triste d'en arriver là. Mais votre livre, c'est excellent, parce qu'on ne naît pas femme, on le devient. Moi, mes filles se battent pour être des sujets à part entière. Elles sont déjà toutes les deux divorcées. J'ai été deux fois divorcée. Bon, ce que je veux dire, c'est que voilà où on en est, quoi. C'est très, très dur d'être une femme et d'être à la fois mariée, heureuse, d'être une maman, etc.
Alors, ce que je répondrai à ça, c'est que Il y a des moments aussi où on peut oublier qu'on est une femme, tout comme il y a des moments où on peut oublier qu'on est un homme. Et ces moments-là, il faut aussi savoir les construire. Le problème, c'est que chaque fois que vous soyez d'ailleurs homme ou femme, chaque fois que vous... Parce que finalement, les hommes, alors bien sûr, c'est un peu à leur avantage parce que la construction quand même du genre, c'est un masculin fort et un féminin faible, mais cela dit, les hommes peuvent aussi souffrir justement des normes masculines. Je crois que ça, c'est important, les normes justement de la virilité, de la force, de la réussite à tout prix, c'est pas non plus si simple. Mais ce que je dirais, c'est qu'il faut aussi se construire toujours comme une singularité. Le problème, c'est que il faut que cette construction de soi comme singularité, il faut que ce soit une exigence de manière de vivre, de manière d'exister. Il y a des moments où on y arrive, et moi je pense que de mon point de vue, la philosophie a été précisément l'un de ces moyens. Mais forcément, il y a toujours des moments où on vous rappelle vos assignations. Et le féminisme, à mon sens, un féminisme ordinaire, c'est une manière d'apprendre à déjouer le plus possible les assignations. Et c'est bien la raison pour laquelle je pense que des cours sur les études de genre, des cours sur le féminisme, précisément des cours qui apprennent ce qu'il en est des rapports de genre, c'est important. C'est important parce que précisément, ça peut aider à se construire comme singularité. Donc moi j'insisterai, si j'avais bien l'idée qu'un autre système est possible, cet autre système possible, ce serait précisément, mais il existe par moment, ce serait justement le fait de pouvoir être toutes et tous des singularités. Et ça, en partie, certains textes de philosophie, justement, y aide, mais il y a d'autres manières que la philosophie pour pouvoir... Et donc, face à tout ce qu'on peut rencontrer comme difficulté des filles et des femmes dans la vie, il faut toujours aussi rappeler ça. Cette idée que, que nous sommes des singularités. Et c'est ça que j'ai voulu dire aussi avec la perspective de l'amour pur. L'amour pur, c'est la rencontre justement de deux singularités et un moment où cette rencontre des singularités est possible. Et il y a des moments dans l'existence où précisément c'est possible, y compris à certains moments dans des rapports de travail aussi ou dans des rapports d'amitié, etc., etc.
Oui, ben c'était surtout pour, je dirais, vous remercier de faire de la philosophie de cette manière-là. Comme vous l'avez dit au début, quand Sylvie l'a présenté, en fait, faire une philosophie qui est une philosophie en acte, finalement. C'est-à-dire, non pas être dans une sorte de scission qui serait une scission entre du théorique une praxis quoi, qui est une praxis quotidienne et notre rapport qui est notre rapport à toutes les injonctions, à toutes les assignations, mais être finalement dans cette philosophie en évoquant Simone de Beauvoir aussi ce que j'appelle moi un petit peu une philosophie traversière. C'est-à-dire une philosophie qui croit en effet qu'il y a un acte philosophique, et qu'il est là. Et que c'est aussi ce qui peut nous aider, je pense, à devenir des singularités. Bon, je ne dis pas qu'il faut toutes être comme ça dans une démarche, qui est une démarche philosophique, mais quand vous évoquez Spinoza, je crois en effet que le rapport entre finalement la connaissance et la connaissance des causes et la connaissance des causes qui déterminent chaque fois nos assignations à être ce que nous devons être dans des figures qui sont déjà des figures préséantes, quoi. Je crois que cette connaissance-là, elle est aussi libératrice. Donc, merci de toute façon d'être dans cet acte-là.
Ah oui, et c'est en ce sens aussi une manière de revenir sur la question de l'émancipation. Et en quoi la philosophie est un acte qui peut précisément aller du côté de cette question de l'émancipation. Et je trouve qu'aujourd'hui, on oublie trop ce concept d'émancipation qui a quand même été énormément travaillé dans les années 60 et 70 en France. Et donc voilà, je vous remercie. C'est tout à fait ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, et c'est ce qu'on avait fait aussi avec Guillaume Leblanc dans le livre sur la fin de l'hospitalité, qui était finalement l'idée de penser une intervention philosophique à l'occasion de cette crise d'accueil des migrants à partir de 2015, où on se sentait quand même toutes et tous assez impuissants face aux décisions de nos gouvernants.
Le livre de Fabienne Brugère, On ne naît pas femme, on le devient, est édité chez Stock. Fabienne Brugère a aussi fait paraître La politique de l'individu au seuil en 2013, L'éthique du care dans la collection Que sais-je des presses universitaires de France en 2017, et avec Guillaume Leblanc, Dictionnaire politique à l'usage des gouvernés chez Bayard en 2012 et La fin de l'hospitalité chez Flammarion en 2017. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche lundi 13 mai 2019.